إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous allons commencer aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission, la lecture et l'explication du livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid, de l'imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Kitab al-Tawhid, le livre du Tawhid. Le Tawhid, qui est communément traduit par l'unicité, cela veut dire le fait d'attribuer à Allah tabaraka wa ta'ala l'unicité, et non pas de rendre Allah unique, car Allah il est déjà unique. Ou bien cela veut dire qu'on attribue l'unicité à Allah tabaraka wa ta'ala, ou bien que l'on rend nos adorations uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le tawhid. Et le tawhid, c'est l'objectif pour lequel Allah tabaraka wa ta'ala a créé les hommes et les djinns. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer, c'est-à-dire me vouer un culte exclusif. Donc ce domaine, l'étude du tawhid, c'est le plus important et c'est la plus noble des sciences, car c'est l'étude de la science pour laquelle nous avons été créés et Allah nous a ordonné cela. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Et sache qu'il n'y a nulle divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Donc l'étude du tawhid est un sujet essentiel dans la vie du musulman et c'est la base de sa religion et c'est l'appel de tous les prophètes et messagers. Et l'étude du tawhid, on ne doit jamais s'en lasser. D'ailleurs, c'est connu de nos grands savants qu'ils ne se lassent pas de lire et relire et enseigner et réenseigner à plusieurs reprises Kitab al-Tawhid. Car ce livre, en réalité, il aborde des sujets et des chapitres essentiels dans l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans ces chapitres, il y a des versets du Coran, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien des paroles des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou des grands imams qui sont venus expliquer ces versets et ces hadiths. Dans le domaine de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, il faut savoir qu'il n'y avait pas beaucoup de livres qui étaient réunis et écrits dans le domaine du tawhid al-ibada, l'unicité dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans la divinité. D'ailleurs, le premier livre qui a été écrit à ce sujet, c'est le livre de l'imam al-Maqrizi, rahimahullah. L'imam al-Maqrizi qui a écrit ce livre qui s'appelle Tajrid al-Tawhid al-Mufid. L'imam al-Maqrizi, rahimahullah, il est du 8e siècle de l'Égypte. Il est né en 766 de l'Égypte et il est mort en l'an 845 de l'Égypte. Et il a été dit que c'est le premier livre qui a été réuni dans Tawhid al-Ibada, bien avant Kitab al-Tawhid du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui lui est mort en l'an 1206 de l'Égypte, c'est-à-dire presque 400 ans après l'imam al-Maqrizi, rahimahumullahu jami'a. Ce livre-là, beaucoup de savants ont reconnu qu'aucun livre équivalent n'a été écrit en islam auparavant, c'est-à-dire dans ce domaine et de cette manière-là. Car le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, y a clarifié les différentes catégories du tawhid, de l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, et celle du tawhid dans les noms et les attributs divins, de manière générale, car il s'est surtout concentré sur le tawhid, tawhid al-ibad, sur l'unicité dans l'adoration et dans la divinité. Il y a aussi expliqué le polythéisme majeur et certaines de ses manifestations, de même qu'il a clarifié les voies menant au polythéisme majeur. En outre, le cheikh, rahimahullah, a clairement défini ce que représentait la protection du tawhid et les moyens permettant de la mettre en œuvre. Enfin, il a aussi explicité certaines catégories du tawhid, comme tawhid al-rububiyya, tawhid dans la seigneurie. Ce livre, barakallahu fikum, c'est un livre très important. Et c'est pour ça qu'il est très important d'y accorder un grand intérêt et de l'étudier et de le méditer et de le mémoriser et de le relire et de le réviser et de l'enseigner. D'ailleurs, un grand nombre de savants ont dit du bien de ce livre. Parmi eux, le Cheikh Suleyman ibn Abdillah ibn Muhammad ibn Abdel Wahhab, c'est-à-dire le petit-fils du Cheikh Muhammad ibn Abdel Wahhab. Il a dit en parlant de Kitab al-Tawhid dans son livre Taysir al-Aziz al-Hamid, de toute façon on va parler de ce livre plus tard, Inch'Allah, il a dit c'est un livre unique dans son sens. Personne ne l'a devancé en cela et on ne pense pas que quelqu'un pourra le rattraper. De même, le Cheikh Abdullah al-Bassam, rahimahullah, dans son livre Ulama al-Najd, les savants du Najd, de la région de Najd, il a dit en parlant de Kitab al-Tawhid, du livre de l'unicité, il a dit il fait partie des plus valeureux des livres et personne n'a écrit auparavant un livre pareil. Cheikh al-Fawzan, rahimahullah, dans son charh I'anatul Mustafid, l'explication de Kitab al-Tawhid, il a dit ce livre, il fait partie des plus précieux des livres qui ont été écrits dans le chapitre du Tawhid, de l'unicité, car il est bâti sur le Coran et la Sunna. De même, Cheikh al-Allama al-Muhaddith Muqbil al-Wadi'i, rahimahullah, quand on lui a posé les questions sur les terminologies du hadith, il a dit parmi les livres valeureux qu'aucun musulman ne doit délaisser et que tout musulman a besoin, il y a le livre Fathul Majid, d'explication de Kitab al-Tawhid, et le livre Kitab al-Tawhid du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Et il a dit aussi, ce livre-là est un des plus grands ouvrages de l'imam, le réformateur Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Il y a eu beaucoup d'autres savants qui ont dit beaucoup de bien de ce livre. Ce livre-là, il y a eu beaucoup d'explications qui ont été écrites et données aussi à l'oral de ce livre, vu son importance. Il y a des explications écrites qui sont encore manuscrites jusqu'à maintenant, qui n'ont pas été éditées, et d'autres qui sont éditées. Parmi les explications les plus connues, il y a Taysir al-Aziz al-Hamid fi sharh kitab al-Tawhid, qui a été écrit par le petit-fils de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, qui n'est autre que le muhaddith al-faqih, le Cheikh Suleyman ibn Sheikh Abdullah ibn Sheikh l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Le Sheikh Suleyman Ali Sheikh, il est mort en l'an 1233 de l'Hégire. Mais cette explication est le premier parmi les explications de ce livre qui existe et un des plus longs. Mais il n'a pas réussi à le terminer. Il ne l'a pas terminé, cette explication. Parmi les explications qui ont été éditées, il y a Tahqiq al-Tajrid fi sharh kitab al-Tawhid de Sheikh Abdul Hadi ibn Muhammad ibn Abdul Hadi al-Bakri al-Ujayli, qui est décédé en l'an 1262 de l'Hégire. Il y a aussi le fameux Fathul Majid. Fathul Majid, Sharh Kitab al-Tawhid. Celui-là a été écrit par aussi un autre petit-fils du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui est le fils de Hassan, son fils, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Le premier, Suleyman, il est le fils de Abdullah, qui est le fils de Cheikh. Et ici, Abdurrahman, c'est le fils de Hassan, le fils de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. C'est lui qui a écrit Fathul Majid. Et il est mort en l'an 1285 de l'Hégire. Qu'est-ce qu'il a fait? En vérité, il a résumé Taysir al-Aziz al-Hamid, c'est-à-dire il a résumé le livre de son cousin, qui est Suleyman ibn Abdillah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab. Il a résumé son livre qu'il n'avait pas terminé, puis il y a rajouté, il l'a terminé et il y a rajouté certains écrits et certaines transmissions authentiques. Parmi les explications de Kitab al-Tawhid, il y a Qurratu Uyun al-Muwahhidin fi تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. Il y a aussi فتح الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد du Cheikh Hamid ibn Muhammad ibn Hassan ibn Muhsin رحمه الله qui a été édité en Inde et qui est mort ce Cheikh en l'an 1317 de l'Égypte. Parmi les explications aussi, il y a إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد du grand savant Hamad ibn Ali al-Atiq رحمه الله. Hamad ibn Ali al-Atiq, c'est un des élèves de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, celui qui a écrit Fath al-Majid et celui qui a écrit aussi Qurratu Uyun al-Muwahhidin. Donc c'est pour ça que dans son charh Ibtal al-Tandid, on verra qu'il y a pas mal de ce que l'on trouve dans Taysir al-Aziz al-Hamid. Parmi les explications aussi illustres de ce livre, il y a Al-Qawl al-Sadid fi Maqasid al-Tawhid du Cheikh Al-Allama Abdurrahman ibn Nasser al-Sa'di رحمه الله, qui est décédé en l'an 1376 de l'Égypte, qui est un des chouyours de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah. Dans ce livre-là, il s'est différencié aux autres livres dans le fait que le Cheikh Sa'di rahimahullah, dans cette explication-là, il s'est concentré sur le fait d'expliquer les objectifs de chaque chapitre et qu'il a ramené certains rajouts et certaines explications et certaines organisation très utile pour les étudiants en sciences, rahimahullah. Parmi les explications aussi illustres, il y a Ad-Durr al-Nadid ala Abwab al-Tawhid, qui a été écrit par Cheikh Suleyman ibn Abdirrahman al-Hamdan, qui est décédé en l'an 1397 de l'Égypte. Ce Cheikh, rahimahullah, il a en fait résumé la plupart de ce que l'on trouve dans les différentes explications qui ont été faites par les petits-enfants de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et par d'autres, et il y a rajouté certains éclaircissements et certains rajouts de sa part. Il y a aussi le charh de Ibn Qasim qui est bien connu, qui s'appelle Hashiyatu Kitab al-Tawhid. C'est un résumé de ce que l'on peut trouver dans les livres, dans les explications précédentes. Il est un peu plus résumé. Et il a profité de ses mashayikhs, de ses shuyukhs, qui sont Cheikh Abdullah ibn Cheikh Abdul Latif et le Cheikh Saad, le fils de Cheikh Hamad al-Atiq, et de Cheikh Mohammed ibn Cheikh, le fils de Cheikh Ibrahim ibn Abdul Latif. Donc il a profité de ses chouyours qui étaient connus dans la science du Tawhid, qui certains d'entre eux sont les descendants de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, d'autres qui sont descendants des plus illustres élèves des petits-enfants de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et il a donc fait un résumé en plus de ce qui avait été écrit auparavant. On trouve aussi Al-Jadid fi Sharh Kitab al-Tawhid de Al-Qara'awi. On trouve aussi le livre de Cheikh Al-Uthaymin, Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid. Il n'est pas résumé. On trouve le charh de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, lui qui est aussi très résumé, qui est proche de ce que l'imam al-Sa'di, rahimahullah, a fait. On trouve le mulakhas dans l'explication de Kitab al-Tawhid de Cheikh al-Fawzan. C'est un bon livre pour les débutants arabophones. Il est très résumé. Il y a le qasd al-Sadid aussi, écrit par Cheikh Faisal Ali Mubarak, rahimahullah, qui est décédé en 1376 de l'Égypte, qui est aussi une explication résumée qui est très profitable. Il y a le charh de Cheikh Abdullah ibn Humayd. Il y a aussi un charh résumé de Cheikh Najmi, rahimahullah, qu'il a appelé un charh al-Mujiz al-Mumahad. Et il y a des shuruhat, des explications plus détaillées. Il y a I'anat al-Mustafid de Cheikh al-Fawzan. Et il y a aussi l'explication de charh de Fath al-Majid de Cheikh Salih al-Sheikh. Et il y a un autre résumé. Cheikh Salih al-Sheikh, il a deux explications. Une explication de Fath al-Majid qui est longue, donc c'est l'explication d'une explication, car Fath al-Majid c'est déjà l'explication de Kitab al-Tawhid. Donc là ici Cheikh Salih al-Sheikh, il fait l'explication de cette explication, c'est-à-dire il rajoute sur cette explication encore des précisions et des explications. Et il a un autre livre qui était en fait des cours donnés qui ont été après mis par écrit, qu'il a vérifié, qui s'appelle At-Tamhid fi Sharh Kitab al-Tawhid, qui est très profitable aussi. Il y a aussi beaucoup d'autres explications, mais j'ai voulu citer les explications essentielles qui ont été éditées de Kitab al-Tawhid. Avant de rentrer dans l'explication du livre, on va essayer de connaître, pour ceux qui ne le connaissent pas, l'écrivain de ce livre, qui n'est autre que Mohammed ibn Abdul Wahhab ibn Suleyman ibn Ali ibn Mohammed ibn Ahmed de la tribu de Wahba des Bani Tamim, qui sont une tribu arabe de la région du Najd. Le Najd, c'est une région qui est au centre nord-est de l'Arabie. C'est la région de Riyad, on va dire, et aux alentours. Le Cheikh
Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, il est né en l'an 1115 de l'Égypte, donc ça fait 300 et quelques années. Il est né dans une ville qui s'appelle Uyayna, dans la région du Najd. Il a mémorisé le Coran par cœur avant qu'il ait atteint les 10 ans. Et il a appris le fiqh al-Hanbali aux mains de son père, qui était un juge et un connaisseur de la jurisprudence selon l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. Depuis son jeune âge, le cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab était connu pour sa grande intelligence et sa perspicacité, et qu'il était très rapide dans la mémorisation et l'apprentissage et la compréhension. Il aimait beaucoup lire les livres de tafsir, les livres de hadith, les paroles des savants dans les fondements de l'islam, et son père était très étonné par sa compréhension et sa grande intelligence. Et d'ailleurs, lui-même, son père même a profité de son fils dans beaucoup de domaines de la science. Donc, Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab a grandi dans une maison de science. Et son père était un juge qui le motivait et qui le dirigeait dans l'étude de la science. Et il a pu profiter de la bibliothèque de son grand-père, Souleyman ibn Ali, qui était resté en héritage pour eux. Il faut savoir qu'à l'époque, avoir une bibliothèque où il y a pas mal de livres de référence, ce n'est pas donné à tout le monde. C'était très cher, c'est difficile. Les livres n'étaient pas édités avec des imprimantes comme aujourd'hui, on a l'impression. Non, c'était recopié à la main par des gens qui étaient connus pour être des spécialistes dans les copies des livres. Imaginez-vous comment c'était une richesse très rare d'avoir un livre à cette époque-là. Et leur maison était connue pour être un endroit de réunion pour les étudiants de sciences et pour les délégations et les voyageurs qui y venaient pour voir le juge. Ils en profitaient pour venir débattre et discuter sur les différents sujets de la science. Le cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab a voyagé aussi pour apprendre la science. Il a voyagé vers la Mecque. Il a voyagé vers Médine, il a voyagé vers Al-Basra, comme ils disent en français Bassora, en Irak, plus d'une fois pour y rencontrer les savants et étudier la science. Il n'a pas eu la possibilité de voyager vers le Cham, vers la Grande Syrie. Puis, après ses différents voyages, il est retourné au Najd, dans sa région d'origine, pour appeler les gens au Tawhid. Et comme on sait, il a appris de son père, et il a une chaîne de transmission jusqu'à l'imam Ahmed ibn Hanbal concernant le fiqh Hanbali, concernant le fiqh Hanbali, rahimahumullah. Aussi, il a appris toutes les sciences du hadith, des livres de la sunna, et des authentiques, et des sunan, et des masanides. Il s'est aussi concentré dans sur les livres de langue arabe, et surtout, tout ce qui concerne le tawhid, l'unicité d'Allah, tabarak wa ta'ala. Après que quelques années soient passées, et qu'il est revenu dans son village, Hureymila, qui était devenu en fait l'endroit où son père a déménagé, après que en fait il y ait eu un nouveau émir, un nouveau dirigeant sur la ville de l'Uyayna, il a été déplacé à Al-Hureymila. Alors, la famille de Cheikh Mohammed bin Abd al-Wahhab, donc Abd al-Wahhab son père, il s'est déplacé à Al-Hureymila et il est resté là-bas et il est devenu juge à Al-Hureymila. Quand Cheikh Mohammed bin Abd al-Wahhab est venu, il a rejoint son père dans cette ville où il a déménagé. Il a commencé à appeler les gens à l'unicité d'Allah tabaraka ta'ala et au tawhid. Car il faut savoir qu'à l'époque de Cheikh Mohammed bin Abd al-Wahhab, il y avait pas mal de shirk qui étaient répandus dans la péninsule arabique, entre les gens qui faisaient des offrandes aux djinns dans les maisons. Ils faisaient un coin dans la maison spécialement pour les djinns. Ils leur faisaient des offrandes. Entre les gens qui égorgeaient ou qui allaient visiter les mausolées. Entre la sorcellerie qui était répandue, etc. Donc le cheikh, quand il a vu tout cela, il a vu que cela contredisait la base du tawhid, la base avec laquelle sont venus tous les prophètes et la base à laquelle le Coran et la Sunna appellent. Donc il a appelé les gens à la croyance des pieux prédécesseurs, à la croyance du tawhid, et toute sa da'wa était de demander aux gens de revenir au tawhid et de rejeter le shirk, le polythéisme, donc l'adoration des tombes, les croyances dans les arbres, dans les mausolées, dans la sorcellerie, etc. C'était des choses qui étaient très répandues, et la base du tawhid sur lequel avait laissé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sa communauté avait été dévoyée et changée. Quand il a appelé à cela, alors beaucoup de gens à son époque, en fait, des savants de son époque, ils étaient en plusieurs catégories. Des savants corrompus, qui appuyaient ces pratiques, d'autres qui savaient que c'était faux, mais ils n'avaient pas le courage de parler. Ou bien, on va dire, ils étaient atteints par un certain conformisme et une faiblesse. C'est pas tout le monde à qui Allah Ta'ala donne la force et le courage de combattre le faux et de dire la vérité. Et c'est pour ça Allah Ta'ala a choisi à chaque époque, comme il est venu dans le hadith authentique, à la tête de chaque siècle, Allah a choisi une personne pour réformer et renouveler cette religion aux gens. C'est-à-dire, il ne va pas inventer, mais dans le sens réformer, dans le sens, il va la revivifier, un revivificateur et non pas un innovateur. Et d'ailleurs, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il n'est pas venu avec une religion, une croyance nouvelle. Il n'est pas venu avec un cinquième madhhab comme ils ont voulu faire croire à l'époque. Il a simplement appelé les gens à la croyance sur laquelle était Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, et avant eux, l'imam Ahmed ibn Hanbal, et avant lui, les sahaba et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc à chaque époque, Allah tabaraka wa ta'ala choisit des imams, des revivificateurs qui viennent faire l'effort pour justement rappeler les gens à la vérité et au tawhid qu'ils ont laissé. Il faut savoir que le cheikh, quand il a commencé à appeler, tant que son père était vivant, il n'était pas libre d'appeler comme il voulait. Donc il appelait au tawhid, mais il n'était pas 100% libre. Quand son père est décédé, rahimahullah, il a eu beaucoup plus la possibilité d'appeler au tawhid dans le sens où il n'avait pas des pressions et il n'avait pas de problème à se confronter à son père qui aurait pu lui dire oui mais tout le monde est comme ça maintenant, qu'est-ce que tu peux y faire, ou autre excuse qui pourrait le faire faiblir dans sa da'wah. Donc il a été beaucoup plus libre dans sa da'wah après le décès de son père, rahimahullah wa ghafarallahu lah. D'ailleurs, même quand le cheikh a été en Irak, les grands savants d'Irak ont reconnu sa science alors qu'il n'avait que 18 ans. Et les grands muftis et les grands savants de Bassora, de l'Basra, l'avait désigné pour enseigner à la grande mosquée, alors qu'il n'avait que 18 ans. Et ses grands savants s'asseyaient à son assise et ils écoutaient la science de lui. Mais quand il appelait les gens au tawhid, les commerçants et ceux qui étaient habitués là-bas aux adorations, à l'adoration des mausolées, etc., ils l'ont menacé de mort. Et ils l'ont obligé à quitter la ville, comme ça, dans l'état dans lequel il était. Il est parti pieds nus et il s'est enfui pour rentrer au Najd. Tellement il a eu des menaces. Rahimahullah, rahimahullah. Donc le cheikh appelait au tawhid. Et il savait qu'Allah tabaraka wa ta'ala allait lui donner secours. Les gens commençaient à répondre à son appel, mais il rencontrait beaucoup de négateurs et beaucoup de gens qui le combattaient et qui faisaient tout pour le diaboliser, pour parler en mal de lui, pour monter les gens contre lui. Et ceci est la technique de tous les égarés et de tous les innovateurs en toute époque. Quand ils n'ont pas assez d'arguments pour combattre le message que les gens de la sunna apportent, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en prennent à leur personnalité, ils s'en prennent à leur personne, ils s'attaquent à leur famille, ils essayent de faire diminuer la valeur qu'ils ont aux yeux des gens, en voulant montrer leurs défauts, en critiquant leur personnalité, leur physique, etc., leur morale, quoi que ce soit. Car ils n'ont pas assez d'arguments pour les combattre avec des arguments. Donc ils s'en prennent à des choses personnelles. Et subhanallah, à toute époque on voit cela. Les ennemis, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils n'ont pas réussi à contredire le Coran, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit c'est un fou, c'est un sorcier, c'est un devin, c'est un poète. Bouchez-vous les oreilles, ne l'écoutez pas. Il divise les familles, il fait ci, il fait ça. De même, ils ont fait avec le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et de même, ils font jusqu'à maintenant avec la da'wa salafia, avec la da'wa vers le tawhid. Ah, les wahhabites, ah, les salafistes, ah, ils divisent les gens, ah, ils font ci, ah, ils font ça, parce qu'ils n'ont pas d'arguments solides pour venir te contrecarrer avec des arguments. Alhamdulillah, même une petite personne dans la sunna, elle est plus forte que les plus grands dans la bid'a. Bien que certains, ils ont tellement l'art de la rhétorique, ils peuvent faire passer le faux pour le vrai. Donc c'est pour ça que c'est pas à tout le monde de polémiquer ou débattre avec eux. Ça, c'est un autre sujet. Mais pour dire que ces méthodes-là, elles ont toujours été employées par les ennemis de la vérité. Et elle est employée jusqu'à aujourd'hui par les ennemis de la vérité et les jaloux. Quand ils n'ont pas de moyens de montrer l'égarement d'une personne à travers ses enseignements, alors ils s'en prennent à sa personne. Allahu musta'an. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a eu donc beaucoup de gens qui ont essayé de lui faire des problèmes. Et lui, il cherchait, comme tout prédicateur qui appelle au tawhid, il a besoin de ansar, des gens qui sont là pour l'aider à transmettre ce message. Et Allah Ta'ala lui a choisi des gens pour les aider, qui sont la famille Saoud, qui était en la personne du émir Mohammed ibn Saoud, sous conseil de son épouse et de sa sœur, qui l'a accueilli, qui l'a aidé et qui a fait un un pacte avec lui. Ce pacte-là, c'est que nous, on a le pouvoir politique, on a des gens pour t'aider à répandre cette prédication. Donc, nous, on est avec toi. On va t'aider à répandre ce prêche du tawhid. Et on va être prêt à tout sacrifier pour répandre le tawhid. Mais toi, de l'autre côté, si demain, ton prêche se répand, tu ne nous délaisses pas pour retourner dans ton village. Tu restes avec nous. Tu restes avec nous pour continuer cette da'wah-là, ce prêche-là. Puis, le émir Mohammed ibn Saoud, il avait mis une autre condition. Mais le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab l'a refusé. Cette autre condition, c'était que si demain on gagne et cette prêche se répand, tu ne m'empêches pas de continuer à prendre certains impôts qui me sont donnés par les tribus qui sont autour de nous. Alors le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a refusé cette condition car elle est contradictoire à la charia. Et le émir Mohammed ibn Saoud a accepté. Et le cheikh, il lui a dit qu'Allah va lui donner la baraka du fait qu'il défende le tawhid et qu'il n'aura pas besoin de prendre ses impôts des gens. Allah va lui mettre la bénédiction dans son ordre, dans le fait qu'il a voulu défendre le tawhid et répandre le tawhid. Et effectivement, quand le émir Mohammed ibn Saoud a accepté cela, comme vous le voyez, Allah a mis la baraka dans sa descendance et dans ses biens. Et c'est ce pacte-là que l'on trouve jusqu'à aujourd'hui entre les gouvernants Saoud et la famille Ali Sheikh. Ali Sheikh, quand on dit Ali Sheikh, c'est dire les descendants du Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc les Ali Sheikh, ce sont les représentants religieux, comme était leur grand-père à l'époque du émir Mohammed ibn Saoud, et la famille Saoud sont les dirigeants politiques, comme était à leur époque leur grand-père Mohammed ibn Saoud. Et c'est comme ça, quand le pouvoir politique et la science se rejoignent, alhamdulillah, c'est un grand bien pour que le tawhid et la vérité se répandent partout. Une chose importante avant de finir ce chapitre sur la biographie du cheikh et de parler un petit peu de ses écrits et de ses enfants, il faut savoir que quand le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a fait, donc quand le émir Mohammed ibn Saoud a fait le pacte avec cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab de défendre cette prédication et d'être avec lui, il n'était pas sous l'autorité de quiconque, il n'était pas sous l'autorité de l'Empire Ottoman à cette époque-là. Et comme certains disent, ils se sont soulevés contre eux, les gouverneurs musulmans, ça c'est faux, car ils n'étaient pas sous leur autorité. Il faut savoir que la plupart des pays n'en avaient que faire des tribus arabes qui étaient entre eux dans le désert. Et l'Empire Ottoman avait l'emprise sur Mecca et Al-Madina, sur le Hijaz, mais il n'avait pas l'emprise sur le Najd. Ça c'est première des choses. Deuxième des choses, quand il y a eu des combats qui ont été faits par les suiveurs de par la famille Saoud, la première, et les élèves de Mohammed ibn Abdul Wahhab, en fait ils appelaient les gens à délaisser le shirk autour d'eux et à revenir au tawhid et délaisser les innovations. Et s'ils refusaient, alors ils les combattaient pour appeler au tawhid et transmettre le tawhid, comme la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est le devoir du gouverneur musulman, de transmettre le bien, même si c'est par le fait de combattre même peut-être d'autres musulmans innovateurs. Même combattre la bid'a, c'est le devoir des gouverneurs musulmans. En plus du fait de combattre le shirk, qui n'est pas seulement une bid'a, mais qui est une bid'a mukaffira, une innovation qui rend mécréant, qui fait sortir de l'islam. Donc, ce n'est pas comme certains veulent faire croire que Mohammed ibn Abdul Wahhab et que la famille Saoud qui était avec lui, Mohammed ibn Saoud, étaient des kharijites, étaient des gens qui sont sortis contre les gouverneurs musulmans et contre l'Empire Ottoman et qui ont manigancé avec les Anglais, je ne sais quoi. Tout ceci sont des mensonges. Tout ceci, c'est aussi pour, justement, décrédibiliser cette da'wah, cette prêche bénie qui est la da'wah du tawhid. Et c'est pour ça, d'ailleurs, pour rabaisser et décrédibiliser cette da'wah, ils en viennent à dire les wahhabites, les wahhabites. Alors que Mohammed ibn Abdul Wahhab, il n'est pas venu ni avec une nouvelle croyance, ni avec une nouvelle pratique. Il est venu appeler à la croyance des pieux prédécesseurs et à suivre les pratiques des gens de la sunna dans le fiqh. Na'am, rahimahullah. Il a eu plusieurs ouvrages, et le plus connu, c'est celui qu'on va étudier, Kitab al-Tawhid. Mais il a eu beaucoup d'autres ouvrages, comme Kashf al-Shubuhat, comme les trois principes aussi, Thalathat al-Usul, qui est très connu aussi, comme le livre Les conditions de la salat, comme les quatre principes aussi, comme les fondements de la foi, comme le livre aussi, Fadlul Islam, les vertus de l'islam. Il a aussi réuni un livre, Kitab al-Kaba'ir, les grands péchés, autre que celui qu'on connaît de l'imam al-Zahabi. Savoir que celui de l'imam al-Zahabi, il y en a qui sont attribués à lui mensongèrement. Faire attention. Et d'autres livres qui ont été écrits par le Cheikh Rahimahullah. En l'an 1206, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab est décédé dans la ville de Huyayna, très proche de Riyad. Il a laissé derrière lui 6 garçons et une fille. Sa fille, elle s'appelait Fatima. Ses garçons, il a laissé Hussein, Abdullah, Ali, Hassan, Ibrahim et Abdulaziz. Rahimahumullah jami'a. Donc voilà ce qu'on peut dire en résumé, en très grand résumé, du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et de l'importance de ce livre Kitab al-Tawhid que l'on va étudier ensemble, inshallah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallillahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.